France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XXe siècle, dans un monde sans informatique, une enseignante en littérature passionnée par Shakespeare se retrouvait propulsée en pleine Première Guerre mondiale à la tête de la première unité de décryptage des États-Unis, des années avant la création de la NSA et de la CIA. Comment est-elle devenue l'une des plus grandes spécialistes de cette discipline éminemment mathématique, la cryptologie, et quels furent ses principaux apports à ce domaine entre décodage d'échanges nazis ainsi que de milliers de messages secrets de la mafia ? Science Chrono vous raconte aujourd'hui l'histoire de cette cryptologue très secrète, Elizabeth Friedman. Bonjour Noël Krajman.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice de mathématiques au Palais de la Découverte et vous animez le compte Instagram Histoire Curieuse de Maths. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous raconter la vie de cette première cryptologue américaine que fut Elizabeth Friedman. Alors avant de décoder ensemble son parcours, je vous donne quand même le menu de la deuxième partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous ferons une archéologie du parfum et nous poserons la question des arômes des parfums antiques utilisés dans l'espace méditerranéen. L'occasion aussi de se demander dans quel contexte on utilise ces parfums et comment on les fabriquait. Mais avant d'aller respirer ces parfums antiques, on fait retour à l'histoire des sciences et à ce personnage que fut Elizabeth Friedman. Noël Krajman, pour commencer ce portrait, j'aimerais que vous nous donniez pour commencer quelques éléments biographiques concernant cette personnalité. Dans quel contexte est née et a grandi Elizabeth Smith, qui deviendra plus tard Elizabeth Friedman ?
Alors, Elizabeth Smith provient d'une famille américaine nombreuse de l'Indiana et elle réussit à négocier avec sa famille de faire des études dans le supérieur, ce qui n'était pas évident à cette époque parce que les femmes avaient comme rôle d'être mère au foyer. Elle fait donc des études en littérature anglaise et en grec. Et après l'obtention du diplôme, elle exerce un des seuls métiers accessibles aux femmes à cette époque, enseigner dans les petites classes.
Il me semble que son père était très très opposé. Alors c'était une famille de Quakers et son père était très opposé à ce qu'elle fasse des études. Et ce qui lui a permis à elle de faire des études, c'est un arrangement. Il lui a dit « Ok, tu fais des études, mais tu me rembourseras l'argent que j'investis dans tes études, c'est ça ?»
Exactement, et le taux d'intérêt était de 6%.
Il y avait même un taux d'intérêt, donc il était dur en affaires, le père. Donc du coup, elle fait le seul métier que peut faire une femme à cette époque-là, après des études universitaires, elle revient enseigner en tant qu'institutrice dans l'Indiana.
Exactement, sauf que ce travail ne lui plaît pas, et elle démissionne au bout d'un an. Et elle décide de partir à Chicago pour aller trouver du travail. Mais en une semaine, elle ne trouve rien. Et donc le dernier jour, elle s'accorde un petit plaisir en se rendant dans une bibliothèque pour consulter une édition originale des œuvres de Shakespeare.
Alors elle quitte son métier pour partir à Chicago. Et là, à 24 ans, vous le dites, Noël Krajman, sa vie va changer. C'est ce qu'on va entendre dans notre archive du jour. Écoutez l'extrait de la retranscription écrite d'un entretien audio accordé le 6 juin 1974 par Elizabeth Friedman à la George C. Marshall Foundation de Lexington, dans Virginie. On s'est chargé de traduire le passage de cet entretien et la lecture vous est faite par Maïwenn Guizhou.
Je séjournais alors dans le quartier sud avec des amis et j'avais appris que la Newberry Reference Library, une bibliothèque privée située dans le quartier nord de Chicago, possédait un premier in-folio de Shakespeare, un original. Je n'en avais jamais vu. Je me suis donc rendue dans cette bibliothèque pour voir le livre de Shakespeare. Après ça, j'ai discuté avec la bibliothécaire qui était diplômée du Harlem College de Richmond, dans l'Indiana. L'Indiana est mon état d'origine. Mes nombreux ancêtres vivaient à Richmond et ont beaucoup contribué au développement de cette partie de l'Indiana. Je lui ai donc dit « Je cherche un emploi, avez-vous quelque chose à m'offrir ?» Elle m'a répondu « Il y a un homme qui m'a demandé de trouver une jeune personne versée dans la littérature anglaise et connaissant bien Shakespeare. Il s'agirait de faire des recherches pour lui dans sa propriété près de Chicago. Voilà tout ce qu'elle m'a dit à son sujet. Et elle m'a dit « Je vais l'appeler et lui demander un rendez-vous pour vous. » Elle a appelé et il lui a apparemment répondu « J'arrive tout de suite. » C'est tout ce qu'il a dit. Georges Fabienne a débarqué dans la bibliothèque en costume Prince Albert, rayé, avec une queue de pie, un pantalon rayé et un jabot à la place du col. Il déambulait avec un air très autoritaire. Il a dit « Voulez-vous passer la nuit avec moi ?» Vous pouvez imaginer, vu mon âge et mon inexpérience, à quel point cela m'a heurtée. J'ai bredouillé et j'ai dit que je n'avais pas d'affaires avec moi, que je n'étais pas prête à partir immédiatement sans savoir où. Il m'a dit « Eh bien, nous vous fournirons cela, n'y pensez pas. » Je l'ai suivi et nous sommes sortis. Sa limousine avec chauffeur nous attendait. Il avait un laboratoire d'ingénierie qui est entré dans l'histoire pour deux raisons. Ils avaient mis au point la sabinite, le matériau que l'on mettait dans les murs des auditoriums pour les insonoriser. À l'époque, ce genre de matériau n'existait pas du tout. Mais son département d'ingénierie avait également mis au point quelque chose qui, selon moi, ressemblait exactement à un diapason géant, et qui avait un rôle capital à jouer en lien avec la guerre. C'était secret, je ne savais pas vraiment ce que c'était.
Voilà Noël Krajman, donc ce texte de extrait d'un entretien, de la retranscription d'un entretien avec Elisabeth Friedman. C'est pas simple de trouver des archives d'Elisabeth Friedman et de trouver des recensions de ses écrits et même de ses témoignages, parce que beaucoup de ces documents qui la concernent ont été pendant longtemps classés secrets.
Oui, exactement. Ce n'est qu'en 2008 que certains de ces documents ont été déclassifiés. Sinon, ils ont été classés secrets parce qu'elle a travaillé durant les Premières et la Seconde Guerre mondiale auprès de l'armée américaine.
Alors, on en revient là à ce tournant dans sa vie, ce premier tournant dans sa vie. À l'âge de 24 ans seulement, elle rencontre ce personnage qu'est George Fabian. Qui est-il, ce personnage qui vient la chercher, qui, de façon assez autoritaire, lui dit « Accompagnez-moi, j'ai un travail pour vous ».
Oui, c'est une histoire un petit peu romanesque. George Fabian, c'est un riche industriel qui est héritier d'une entreprise de coton. Et il n'a pas suivi beaucoup les cours, ni a été à l'université. Et donc, il a voulu prendre une revanche et il a créé à Riverbank un terrain de jeu scientifique où il embauche des scientifiques, des chercheurs pour faire des recherches sur ce qu'il veut. Et donc, il va embaucher Elisabeth Smith pour faire une recherche sur Shakespeare. Parce qu'il est persuadé d'une théorie, il y croit dur comme fer, que c'est Bacon qui a écrit les œuvres de Shakespeare et non Shakespeare. Et donc, il demande à Elisabeth de prouver sa théorie, de vérifier si Bacon a bien écrit ses œuvres, c'est-à-dire si Bacon a inséré des codes, une signature, si on peut dire, dans les œuvres de Shakespeare.
Alors là, on comprend bien finalement que c'est dans la lignée des études qu'a conduite Elisabeth Smith, qui viendra bien sûr peu de temps après cette arrivée à Riverbank, Elisabeth Friedman, cette lignée avec ses études de littérature. Et on entendait dans l'archive, elle parlait de cet in-folio de Shakespeare qu'elle voulait à tout prix aller consulter dans cette bibliothèque de Chicago. Donc on est loin pour l'instant de la cryptologie, des mathématiques, et on s'en rapproche quand même assez fort.
Oui, exactement. Parce que Bacon, il a créé sa propre méthode d'encodage. Et donc, Elisabeth, pour trouver la signature de Bacon, il faut qu'elle se familiarise avec cette méthode d'encodage. Alors, la méthode d'encodage de Bacon, elle consiste à remplacer les lettres de l'alphabet par un groupe de symboles de A et de B. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui le code binaire, où on utilise des 0 et des 1. À l'époque de Bacon, il a utilisé des A et des B. Et donc, le travail d'Elisabeth va consister à essayer de repérer les marques qui pourraient correspondre au A et au B, parce que bien évidemment, il ne va pas mettre des A et des B dans tout le texte. Il devrait mettre des petites marques, comme par exemple un changement de police dans le texte, pour dire A, ça c'est des A, ça c'est des B, pour faire du binaire. Mais alors, le travail, il est très fastidieux, et heureusement, Elisabeth est très douée. Alors, elle ne travaille pas toute seule, il y a une équipe, et surtout, elle va travailler avec un monsieur qui s'appelle William Friedman. C'est un généticien, mais son hobby, c'est la photographie. Il va beaucoup l'aider parce qu'il va photographier les textes pour les agrandir, parce que c'est vraiment un travail minutieux pour repérer le moindre petit signe. Donc, ils vont travailler ensemble et ils vont même tomber amoureux.
Voilà, William Friedman, on va pas... Bon, c'est pas spoiler, c'est assez vite, assez transparent. Il va devenir son mari assez rapidement. Donc, ce William Friedman et Elisabeth Friedman, du coup, se marient assez rapidement. Ils restent quelques années quand même chez George Fabian. Est-ce qu'ils arrivent à percer ce code? Est-ce que les textes de Shakespeare ont été écrits par Bacon ou pas?
Alors, malgré des heures de travail, ils ne vont trouver aucune trace dans les œuvres de Shakespeare. Donc, ils vont conclure que Bacon n'a pas écrit ce texte. Donc, a priori, ça devrait bien être Shakespeare. Et ils écrivent même un ouvrage pour expliquer toute leur analyse ainsi que leurs conclusions.
Alors, on était en 1916 quand Elisabeth Friedman est arrivée à Riverbank, sur le domaine de Riverbank de George Fabian. La Première Guerre mondiale avait déjà éclaté. Les États-Unis n'entrent en guerre que le 5 avril 1917. Comment s'organise à cette époque-là le renseignement militaire? Est-ce qu'ils ont accès à des outils de décodage, de décryptage, ou bien est-ce que c'est encore assez sommaire?
Alors c'est assez sommaire, surtout que la Première Guerre mondiale est marquée par le développement des ondes radio et la transmission donc des messages à travers ces ondes. Et donc il y a beaucoup de messages à décrypter puisque bien évidemment les militaires vont crypter les messages qu'ils envoient par onde. Sauf que les États-Unis ne se sont pas préparés à ce décryptage militaire. Et donc George Fabian va proposer de créer à Riverbank une unité de décryptage et il va nommer Elizabeth et William chef de cette unité.
C'est incroyable de se dire que finalement la première unité de décryptage d'informations militaires sensibles aux États-Unis, dans ce pays-là, aussi important déjà à cette époque, est confié à un monsieur, à une entreprise, à une entité privée qui désigne et qui décide de qui va finalement gérer ce travail de décryptage.
Oui, exactement. C'est assez surprenant. Bon, je pense qu'il a réussi à bien négocier. Ça va pas durer durant toute la guerre. C'est pour commencer. C'est lui, en effet, qui va prendre un petit peu les rênes.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'arrivée de la radio à ce moment-là pour la transmission des messages codés, cryptés. À quoi ressemblent ces messages-là? Est-ce qu'ils sont finalement si différents que ça de ces messages chiffrés, secrets qu'on se transmet depuis quasiment les origines de l'humanité?
Alors, non, c'est souvent un petit peu les mêmes principes. En tout cas, ça n'a rien à voir avec la méthode d'encodage de Bacon, ça c'est sûr. Et donc, Elizabeth et William, qui étaient juste familiers à la méthode d'encodage de Bacon, vont devoir apprendre sur le tas et se former. Ils vont également former leur propre unité et vont même, en se formant, écrire un ouvrage de 8 volumes intitulé « Publication Riverbank » où ils expliquent en fait finalement tout ce qu'ils savent et même un petit peu au-delà. Donc ils vont se former à plein de méthodes. Une des méthodes peut-être très importante qui a duré durant des siècles et qui continue encore à durer, c'est l'analyse fréquentielle pour essayer de découvrir, de décrypter un message dont on ne connaît pas le chiffrement. Mmh. Alors l'analyse fréquentielle, ça consiste à calculer la fréquence d'apparition de chaque lettre dans une langue. Par exemple, en français, on utilise beaucoup le E et moins le W.
Oui. C'est ce qui fait que, par exemple, les lettres au Scrabble ne sont pas les mêmes quand on change de langue. En anglais, il y a beaucoup plus de W qu'en français.
Exactement.
Si vous voulez briller en société, voilà, vous pouvez...
Exactement, le Scrabble a été conçu là-dessus. L'inventeur du Scrabble n'allait pas mettre dans le sachet autant de E que de W. Donc, en effet, il a fait une analyse fréquentielle de la première page du New York Times pour savoir la fréquence d'apparition de chaque lettre et ainsi faire son sachet du Scrabble anglais qui était le premier Scrabble. Et après, en français, on a modifié. Donc, en effet, évitez de jouer avec un Scrabble anglais pour écrire des mots en français.
Mais on s'éloigne de notre sujet. Revenons.
Alors, dans un message codé, il y a un symbole récurrent, ça devrait donc logiquement correspondre à une lettre qui est beaucoup utilisée dans cette langue. Et donc, c'est ce qu'ils vont utiliser, c'est une des méthodes qu'ils vont beaucoup utiliser pour décrypter assez efficacement les messages. Ils vont également aussi beaucoup travailler avec des traducteurs parce qu'ils ont besoin de connaître la langue pour savoir justement quelle lettre ou quel mot est le plus utilisé dans chaque langue.
Alors vous l'évoquiez, donc cette équipe de Elizabeth et William Friedman constitue une équipe. Cette équipe, vous le dites, voilà, est composée aussi de gens qui parlent plein d'autres langues parce que c'est nécessaire pour décrypter bien sûr des messages. Vous l'évoquez aussi cette publication d'une méthode en 8 volumes qui elle va former toute une génération de cryptologues aux États-Unis. Mais on est d'accord que pour l'instant, dans ces 8 volumes, il n'y a pas vraiment de nouveauté. C'est juste qu'ils rassemblent vraiment l'état de l'art, l'état des connaissances autour de la cryptologie.
Oui, c'est principalement ça. Ils vont beaucoup un peu aussi, on va dire, analyser les instruments. Connus des époques anciennes, un petit peu aller au-delà, mais ils vont pas proposer une méthode nouvelle qui va radicalement changer toute la cryptographie.
Alors, il reste quand même jusqu'en 1920 sur le domaine de Riverbank, aux côtés de George Fabian, et puis une mouche les pique. Un jour, un matin, il décide de partir sans préavis. Pourquoi est-ce que William et Elizabeth Friedman quittent le domaine de Riverbank sans donner trop d'informations?
Alors, en fait... Au bout d'un moment, l'armée américaine va quand même créer son unité de décryptage et ils vont embaucher William Friedman dans cette unité. William va partir en Europe et Elizabeth va rester elle seule à Riverbank parce que c'est une femme, elle peut pas être embauchée par l'armée. Et elle va attendre assez longtemps. ça va être long pour elle parce que ça va pas très bien se passer à Riverbank. Et donc, quand son mari va revenir, ils vont tout de suite repartir de Riverbank. Et William va trouver du travail à Washington. Donc, Elizabeth va le suivre. Et ils vont former leur famille. Et Elizabeth, elle a un peu de mal à trouver du travail. C'est difficile pour une femme d'avoir du travail. Donc, elle va principalement être mère au foyer et s'occuper de ses deux enfants.
Et en 1925, la sonnette sonne. Et là, il y a des gardes-côtes qui disent à Elizabeth Friedman, « Bon, on a peut-être besoin de vous quand même, madame. Venez nous aider. » Pourquoi à ce moment-là, ces gardes-côtes viennent la solliciter ses talents de cryptologue?
Oui, pour continuer cette histoire romanesque, en fait, à cette époque-là, il y a beaucoup de trafic d'alcool aux États-Unis parce que l'alcool était interdite. Donc, il y a toute une mafia qui va être mise en place pour vendre l'alcool. Et donc, les gardes-côtes vont frapper à la porte d'Elizabeth pour qu'ils les aident à décrypter des messages qu'ils n'arrivent pas à décrypter.
Il y en a beaucoup.
Leur problème, enfin la plupart de ces messages-là, c'est parce qu'il y a un gros bateau qui va attendre en mer avec toute la cargaison de l'alcool. Et il va y avoir des petits bateaux qui vont faire le lien entre la grosse cargaison et la côte. Ces petits bateaux vont s'envoyer des petits messages pour s'informer où se trouvent les gardes-côtes pour les éviter. Donc Elizabeth va travailler sur ces messages-là et essayer de les décrypter. Elle est quand même très douée parce qu'en 3 mois de travail, elle arrive à décrypter 2 ans de messages non décryptés.
On imagine la pile de dossiers qui l'attendait quand elle a dû rentrer dans ce bureau. Enfin, c'est très très cinématographique aussi cette histoire. On imagine vraiment ces scènes à la fois drôles et sérieuses, quoi. Elle s'empare de ces dossiers-là. Comme vous le dites, donc en 3 mois, elle arrive à décrypter 2 ans de messages non décodés. Quelles sont les stratégies de codage utilisées par ces mafieux? Est-ce que c'est les mêmes que les précédentes dont on parlait?
Oui, ça, c'est souvent un peu la même chose. Il y a aussi une notion aussi qui est importante, c'est la clé d'un message. Donc, on fait de l'analyse fréquentielle quand on ne connaît pas la clé d'un message, mais parfois, on peut découvrir aussi la clé. Une clé, c'est quand, par exemple, on décide de chiffrer un message en remplaçant une lettre par une autre lettre, mais cette lettre, par exemple le A qu'on va remplacer par d'autres symboles, en fonction de sa position dans le texte, va avoir différents symboles. Et donc, pour que l'autre personne, le destinataire, puisse décrypter le message, il a une clé, c'est-à-dire qu'il sait, on va dire, la logique qu'il y a derrière pour décrypter ainsi le message. Et donc, le but d'Elizabeth à chaque fois, c'est de découvrir les clés pour que ce soit beaucoup plus efficace pour ainsi décrypter tous les autres messages.
Alors, quel va être l'impact et l'effet de l'arrivée d'Elizabeth Friedman dans le démantèlement de ces réseaux mafieux de contrebande d'alcool en pleine période de prohibition qui dure de 1920 à 1933? C'est vraiment une vie particulièrement intéressante parce qu'elle est à la fois cachée dans cette grande histoire, à ces endroits qui sont aussi connus finalement de tout le monde, la Première Guerre mondiale, la période de la Prohibition aux États-Unis, puis on va le voir dans un instant, la Seconde Guerre mondiale. Quel est son rôle là dans ce démantèlement justement des réseaux?
Alors, son travail est tellement indispensable, et il y a tellement de travail aussi, cette pile de dossiers, que les gardes-côtes vont créer une unité pour elle, et ils vont la nommer cryptanalyste en chef. Donc, elle va pouvoir embaucher qui elle veut, et aussi avoir un salaire, ce qui est aussi très rare pour les femmes à cette époque. Et donc, grâce à son travail, elle va donc non seulement décrypter les messages, mais en plus, elle a une idée ingénieuse, c'est-à-dire qu'elle va accumuler les données qu'elle a décryptées à travers les messages. Et grâce à ça, elle va pouvoir... elle va pouvoir reconstruire tout le réseau de mafia. Et ainsi, elle va pouvoir donner toutes ces informations à l'État et poursuivre la mafia en justice. Et sous protection policière, elle n'hésite même pas à comparaître comme témoin contre eux.
Ce qui, on peut le dire, est assez courageux quand les mafieux de l'époque s'appellent Al Capone et que on témoigne à visage découvert quand on est une femme. Alors, du coup, ça lui vaut de faire la une des journaux.
Exactement.
Alors, j'ai vu quelques titres, dont celui-ci, le gang d'Ezra tombe dans le piège d'une femme experte en puzzle. Isaac Ezra, c'était l'un des chefs de gang de trafiquants de drogue. Il y avait d'autres titres qui évoquaient cette belle femme qui protège les États-Unis. Donc voilà, là, on est encore dans tout ce registre-là. On arrive, du coup, après cette période de prohibition, on va sauter un peu dans le temps. On arrive en 1941, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, l'attaque de cette base navale américaine qui fait que les États-Unis vont aussi entrer en guerre. Qu'est-ce qui change là par rapport à la Première Guerre mondiale en termes d'échange d'informations secrètes entre militaires, et comment Elizabeth Friedman va se retrouver à nouveau dans cette traque de messages secrets militaires?
Alors, Elizabeth, donc, elle travaille auprès des gardes-côtes et son unité va être transférée auprès de la marine. Et cette unité va être chargée de décrypter des messages entre les groupes nazis d'Amérique du Sud et de l'Allemagne. Parce que, à cette époque-là, le nazisme se développe beaucoup en Amérique du Sud et il y a même des coups d'État qui sont en train d'être faits. Donc, elle va travailler sur le nazisme qui se développe en Amérique du Sud et également sur tout ce qui concerne l'Atlantique. Parce que, encore à cette époque-là, les sous-marins nazis essayent de couler les bateaux, on va dire, alliés. Et donc, au début de la guerre, ça se passe plutôt mal pour du côté allié. Et petit à petit, finalement, Elizabeth et son unité vont réussir à décrypter des messages et renverser la situation en Atlantique.
Alors là, dans cette traque des espions nazis en Amérique latine, il y a plusieurs actions qui font que Elizabeth Friedman, voilà, permet de déjouer quand même des attaques contre des navires tels que le Queen Mary, qui embarque quasiment 8000 marins. Donc elle sauve quand même au passage 8000 vies humaines.
Bien plus.
Voilà, si on devait faire le décompte des nombres de vies qu'elle a contribué à sauver, ce serait assez colossal. Il y a dans cette histoire l'histoire d'un chef de réseau nazi qui était surnommé Sargo et qui échappe aux mailles du filet et qui fait importer un prototype d'une machine qui aura son importance, c'est la machine Enigma. Alors, en quoi consiste ce prototype-là? Qu'est-ce que c'est qu'une machine Enigma dans sa version prototypale?
Alors, peut-être avant expliquer pourquoi Enigma arrive en Amérique du Sud, parce qu'au début, c'était pas le cas. Alors donc, Elizabeth, elle arrive à décoder les messages, mais elle fait la même méthode qu'elle a utilisée pour la mafia, c'est-à-dire qu'elle reconstruit tout le réseau nazi d'Amérique du Sud. Et un jour, le directeur du FBI décide de s'attribuer la victoire de l'Atlantique et fait arrêter les quelques espions
qu'avait
découvert Elizabeth, exactement. Sauf que c'est la pire chose à faire quand on traque les espions, c'est de les arrêter alors qu'on est en train de les surveiller. Et donc ça va alerter Sargo, le chef SS d'Amérique du Sud, et donc il va décider de changer sa méthode de décryptage. Il va importer d'Europe la machine Enigma. Et donc là, cette fois-ci, Elizabeth n'est plus face à des humains qui s'échangent des messages, mais maintenant elle fait face à une machine. Alors, en Europe, on connaît l'histoire d'Alan Turing, qui est assez répandue, qui lui va construire une machine pour faire face à cette machine. Aux États-Unis, peut-être pour des raisons budgétaires, Elizabeth ne peut pas construire de machine. Elle continue à avoir son papier et son crayon pour faire face à cette machine. Alors, elle a de la chance quand même parce que la machine Enigma qui est importée en Amérique du Sud, elle est moins robuste que celle qui est utilisée en Europe. Donc, entre guillemets, un petit peu plus facile, mais ça reste une machine très, très complexe.
Et on peut expliquer peut-être un peu le fonctionnement global de cette machine Enigma. C'est très, très technique, mais on peut au moins expliquer les grands principes.
Oui, exactement. La machine Enigma, en fait, c'est comme une machine à écrire. Quand on tape dessus, ça va changer une lettre en une autre lettre. Et pour cela, ça va passer par tout un circuit, on va dire, électrique, par des rouages qui vont à chaque fois rechanger la lettre et encore et encore et encore. Donc, il va y avoir plein de combinaisons jusqu'à donner la dernière lettre, la lettre codée. Donc, il y a tellement de combinaisons et de possibilités que c'est très dur de trouver la clé, de calculer toutes les clés. En fait, ça prendrait un temps infini pour un humain. C'est pour ça qu'Alan Turing utilise une machine. Et donc finalement, en tant qu'humain, c'est pas possible de faire face à la machine Enigma. Mais heureusement pour elle, quand on n'a plus d'espoir, Elizabeth espère la seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'ennemi fasse une erreur. Et heureusement pour elle, l'ennemi commet une erreur. Un jour, 28 messages sont envoyés avec la même clé.
Donc ça veut dire que 28 messages ont le même point de départ, ce qui signifie qu'on peut connaître le point d'arrivée de ces 28 messages. Et donc ça va permettre à Elizabeth Friedman de décoder ces messages-là.
Exactement, de savoir comment comment la machine a été programmée, on va dire, pour ensuite écrire le message. Et donc comme ça, elle va pouvoir rentrer dans les rouages de la machine, connaître un peu la programmation de cette machine, si on peut appeler ça programmation, et ainsi décrypter les messages de nouveau et de nouveau surveiller les nazis d'Amérique du Sud.
Quels effets vont avoir du coup ce décryptage de cette machine Enigma ? Vous l'expliquez, qui était peut-être moins performante que celle qui était présente en Europe, mais sur ces réseaux nazis en Amérique latine.
Ça va permettre donc d'éviter de nombreux coups d'État et que les États-Unis finalement puissent intervenir en Europe et qu'ils n'aient pas à combattre sur leur territoire. Et donc ça, finalement, ça, heureusement pour nous, ça fait en sorte qu'on puisse libérer la France.
Alors du coup, après la Seconde Guerre mondiale, Elizabeth Friedman, est-ce qu'elle continue d'être embauchée par l'armée américaine ? Est-ce qu'elle retourne à ses affaires courantes de cryptanalyste en chef des gardes-côtes ? Comment se déroule cette après-guerre pour elle ?
Alors en fait, à 54 ans, elle est mise à la porte, à la retraite.
Avec beaucoup de reconnaissance.
Beaucoup, beaucoup, elle ne doit rien dire, comme c'est que des dossiers secrets défense. Et donc, en fait, c'est les ordinateurs qui vont la remplacer. C'est le début des machines, des ordinateurs. Et ils vont mettre fin à l'ère du déchiffrage à la main. Je pense que c'est une des dernières à avoir déchiffré avec du papier crayon les messages écrits.
C'est une question que je voulais vous poser, parce que c'est vrai qu'en 1947, on crée la CIA aux États-Unis, la Central Intelligence Agency. Puis en 1952, la NSA, la National Security Agency. Et là, c'est vraiment le tournant de l'informatique qui est pris. Et finalement, c'est la fin d'un monde. C'est la fin du monde d'Elizabeth Friedman à ce moment-là. Et elle retourne finalement à l'anonymat et à l'oubli.
Exactement. En tout cas, c'est la fin, quasiment, enfin, la fin du monde papier et crayon. Mm-hmm. Maintenant, la cryptanalyse, c'est beaucoup plus. Donc, c'est très mathématique et surtout très informatique. Donc, on va plus embaucher des informaticiens et créer des machines. Et la CIA donc va plus embaucher ce genre de personnes. Et donc oui, ça va être très compliqué la fin de vie pour Elizabeth Smith Friedman. Elle doit rien dire sur ce qu'elle a fait, bien évidemment. Et une retraite à 54 ans et un faible salaire quand même durant toute sa vie, même si elle a travaillé. C'est une femme, donc on donnait un salaire beaucoup plus faible aux femmes. Ça fait une fin de vie assez difficile. Notamment que William Friedman, il a fini avec une forte dépression parce que lui aussi il s'est occupé à décrypter des messages durant la Seconde Guerre mondiale, mais il s'est occupé surtout côté Europe. Et lui, c'est un juif, donc il a sûrement eu accès à des informations qui ont dû beaucoup le traumatiser.
Alors du coup, on parle d'Elizabeth Friedman de plus en plus. Il y a un très beau documentaire qui est diffusé en ce moment sur la plateforme d'Arte. Comment expliquer finalement, on l'a suggéré tout à l'heure, mais comment expliquer que Elizabeth Friedman finalement a été aussi longtemps oubliée, mais connue malgré son rôle clé dans des conflits aussi importants que ceux qu'on vient d'évoquer ?
Alors probablement parce que c'est une femme, on l'a pas non plus tout de suite mise en avant. Et surtout que c'est quand, ce que je disais au début de l'émission, ce n'est qu'en 2008 que les informations la concernant ont été déclassifiées. Donc on n'avait pas accès à sa vie, à toutes ces informations. Et depuis, il y a 3 livres qui ont été publiés en anglais pour raconter sa vie. Mais ça arrive petit à petit en France. Ça commence petit à petit à arriver dans des émissions comme celle-ci. Ça commence à arriver jusqu'à nos
jours. Est-ce que tous les documents ont été déclassifiés ou est-ce qu'il en reste encore à découvrir et peut-être à exploiter, à étudier plus tard ?
Alors j'ai l'impression qu'il y a encore des documents classifiés parce que j'ai beau avoir beaucoup travaillé dessus, j'ai beaucoup de mal à trouver les messages secrets qu'elle a décryptés durant les guerres, comme la Seconde Guerre mondiale. Donc à mon avis, il y a encore beaucoup de secrets sur sa vie.
Et ben vous reviendrez nous en reparler dans 25 ans de ces secrets qu'on aura redécouverts d'Elizabeth Friedman. Merci beaucoup Noël Krajman d'être venu nous parler aujourd'hui de cette figure restée secrète pendant autant de décennies. Secret Code par Lalo Schifrin dans Science Chrono sur France Culture. Après avoir décrypté l'histoire d'Elizabeth Friedman, on arrive à présent au deuxième temps de cette émission. On va parler comme tous les vendredis d'archéologie et je sais pas pourquoi ça sent bon.